Donc on va commencer Bezrat Hashem, notre quatrième chapitre, notre quatrième cours sur le chapitre 48.
D'accord. Le quatrième chapitre, du coup, c'est là, on est arrivé au 48e.
Quatrième cours sur le chapitre 48. Donc on est toujours dans la notion de la Hakarat HaTov. Le problème qu'on a ici, problème qui ne nous quitte pas depuis le chapitre 46, c'est qu'on cherche à comprendre, on a expliqué la notion de la Hakarat HaTov, qu'en vérité on doit être reconnaissant, on doit se sentir reconnaissant envers Hakadosh Baruch Hu. Le problème qu'on a, c'est qu'après tout ce qu'on nous a expliqué comment Dieu nous a fait sortir d'Égypte, comment Dieu nous a donné la Torah, et comment Dieu, même si on n'a pas vécu la sortie d'Égypte, mais comment Dieu, le fait qu'il nous a donné les mitzvot, ça nous permet de sortir de nos limites, donc de notre Égypte, etc. Avec tout ça, avec tout ce qu'on a expliqué dans les chapitres 46 et 47 longuement, on a quand même du mal à se sentir concerné. On a quand même du mal à se sentir redevable envers Hakadosh Baruch Hu. Pourquoi ? Et là, on a expliqué que la raison est très simple. La raison est, puisqu'on n'a pas de repère, on n'arrive pas à s'imaginer qui est Hakadosh Baruch Hu, même si on sait qu'il est très grand. On n'arrive pas à s'imaginer qui est Hakadosh Baruch Hu, donc du coup, même si tu me dis qu'il y a quelqu'un de très grand qui t'a rendu un coup de main, mais j'ai du mal à m'imaginer combien il est grand et combien je suis petit. Oui.
L'exemple du Ami qui voilà, a été pris par le roi.
Donc le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas de repère. Donc ce qu'on essaye de faire dans le Perek Memchet, et Perek Memtet, chapitre 48 et 49, là on est dans le 48, c'est d'essayer de se mettre des repères. Donc on va le faire en deux paliers. Dans le chapitre 48, on va expliquer comment l'homme est rien du tout face à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est pas simplement qu'on va nous le dire, on va nous expliquer. Donc on va nous expliquer le processus, comment le monde a été créé et pourquoi on n'est rien. Et dans le chapitre 49, on va expliquer pourquoi, malgré tout cela, on vaut quand même quelque chose face à Kadosh Baruch Hu. Et avec ça, peut-être, avec un peu de travail, beaucoup de travail, on comprendra en quoi on doit être redevable à Kadosh Baruch Hu. Donc en d'autres termes, maintenant, 48-49, on est en train de placer des repères. Alors qu'est-ce qu'on a expliqué jusqu'à présent ? Jusqu'à présent, il y a deux semaines, on a expliqué comment il n'y avait pas de lien entre l'infini et le défini. Ça, le contraire de l'infini, c'est le défini. Il n'y a pas de lien. Donc on a expliqué que le fini ou le défini, enfin le fini, c'est-à-dire terminé. Bon. On a expliqué que entre ce qui est limité et ce qui est illimité. On a expliqué qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de comparaison. Bon, donc je ne vais pas rentrer dedans. C'est une notion qu'on a déjà expliquée plusieurs fois. Il y a trois semaines, il y a deux semaines, il y a un mois. On a expliqué plusieurs fois cette notion pour arriver à la conclusion que notre monde n'a pas été créé. On avait expliqué la marloquette entre le Ramak, le Harizal, etc. Pour arriver à la conclusion que notre monde n'a pas été créé dans un système de cause à effet. Il y a eu une rupture à un certain moment. C'est pour ça que même si on va s'approfondir et monter, à un certain moment, il n'y aura plus rien. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on s'attende que si on va monter, à un moment, on arrivera à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas. Puisqu'à un moment, il y a eu une rupture. Donc ça, c'est déjà le premier repère qu'on a posé. Le premier repère qu'on a placé, on te dit, écoute, sache que quoi qu'il arrive, quoi que tu comprennes, de toutes les façons, à un certain moment, il y a une rupture. C'est-à-dire, le système de cause à effet est fait que si je vais monter, ben, je vais arriver à la cause initiale. Elle te dit, de toutes les façons, tu n'arriveras jamais à la cause initiale puisqu'il y a eu une rupture. La manière comment Dieu a créé le monde, c'est avec une rupture. On va pas revenir dessus. Par contre, je voudrais revenir sur ce qu'on a expliqué la semaine dernière. La semaine dernière, on a expliqué la différence qu'il y a entre Memalé et Sovev. Une fois qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, on dit qu'Akadosh Baruch Hu va envoyer l'énergie qu'on a besoin par deux vecteurs. Par le vecteur du Memalé et le vecteur du Sovev. Memalé et Sovev, c'est les termes qui reviennent très souvent dans le Zohar. C'est quoi Memalé et Sovev ? Alors si on traduit littéralement, Memalé, ça veut dire une énergie qui va emplir le monde, et Sovev, c'est une énergie qui va entourer le monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, si on prend dans le sens simple, qu'est-ce qu'on comprend ? On dit, bah oui, Memalé, c'est une énergie d'Akadosh Baruch Hu qui va intégrer le monde, qu'on va ressentir, et Sovev, c'est ce qui va être flou, ce qui va nous entourer, mais qu'on va jamais ressentir. Bon, Razaka, il n'a dit pas du tout. Il a dit, on va pas le répéter, toute la notion zoharique, quand dans le zohar tu entends, on te dit que quelque chose est en haut, quelque chose est en bas, quand on te dit que quelque chose entoure, quelque chose emplit, c'est jamais des notions physiques. Donc, oublie, quand on te dit Memalé et Sovev, c'est pas de ça qu'on parle.
C'est pas spatial.
C'est pas géographique, c'est pas spatial. Qu'est-ce qu'on a expliqué la semaine dernière ? Alors, je veux dire en gros, en bref. Ce qu'on a expliqué la semaine dernière, on a dit, c'est un très bel exemple que le Rav Sandel s'est amené. Il a dit, c'est comme en psychologie, on explique la différence qu'il y a entre le dit et le non-dit. Le dit et le non-dit. Un exemple très simple. Si je vais aller à une conférence. Je vais aller à une conférence, et si le conférencier est un bon conférencier, il va s'adapter à son public. Donc il va s'adapter à son public, il va nous dire des messages qui sont adaptés à nous. On va comprendre. Ça c'est le dit. C'est-à-dire je sors de la conférence, il me dit qu'est-ce que tu as compris, je te répète. Tac, tac, tac. Si j'ai compris, c'est la même chose. Chas v'shalom de dire qu'il y a une énergie d'Akadosh Baruch Hu qui rentre dans le monde, une autre énergie dans laquelle Akadosh Baruch Hu il suit les choses de loin. Comme ce qu'il y en a qui veulent expliquer. Comme il y en a certaines personnes qui veulent expliquer. Surtout quand on lit les livres de Kabbalah, où on va vous montrer les tracés, on va dire voilà, Memalé c'est le point au milieu, et Sovev, on va vous tracer un cercle autour. Donc on va dire bon, Memalé c'est Dieu qui intègre le monde, et Sovev c'est Dieu qui gère de loin. Pas du tout. Et Memalé et Sovev, toutes ces énergies-là intègrent le monde et font vivre le monde. Seulement quoi? Quelle va être la différence? La différence va être qu'est-ce que nous on va percevoir? Qu'est-ce que nous on va comprendre? On va expliquer ça aujourd'hui. L'énergie qui est Memalé, c'est une énergie qu'on pourra percevoir, qu'on pourra comprendre. Donc comme le dit, ça veut dire, je sors du cours, je dis oui, j'ai compris ça. J'ai perçu, j'ai compris. Alors que l'énergie de Sovev, ça ne veut pas dire qu'elle ne nous intègre pas, elle va nous intégrer. Pourquoi on l'appelle Sovev? C'est parce que on a l'impression que c'est du flou et qu'on peut pas, et qu'on peut pas intégrer. Alors, on a amené un exemple la semaine dernière, un exemple aussi très simple. C'est écrit dans le Zohar que la Torah, l'étude de la Torah, c'est Memalé, et les mitzvot, c'est Sovev. On a un exemple top. L'étude de la Torah, c'est Memalé. Ça veut dire quoi, c'est Memalé? Rappelez-vous, c'est, qu'est-ce que je dis, Memalé? Memalé, c'est le dit. Ça veut dire, c'est ce que, quand tu me demandes, qu'est-ce que t'as compris? Je dis, j'ai compris ça. Quelqu'un qui va venir à un cours de Torah. Quand même si on sait qu'en vérité, la Torah, c'est très profond, tout ce que tu veux, mais, il sort d'un cours de Torah, tu lui demandes qu'est-ce que tu as compris. Il va dire j'ai compris ça. Donc c'est du dit, ça c'est du mémalé. Maintenant une autre personne, tu vas lui parler du mitzvah. Tu vas dire tu sais, hein, c'est faire Torah, c'est ce qu'il y a de plus kadosh. Une doucha extraordinaire. Est-ce qu'on peut dire qu'un jour on percevra la doucha? Impossible. On peut pas, tu peux pas la sentir.
Ça marche, enfin, d'autres choses tu ressens, le fait de...
Voilà.
Ou le fait de ne pas faire certaines choses qu'on t'a interdit.
Très bien. Tu te préserves, mais c'est des choses que tu ne peux pas percevoir. Ce n'est pas des choses que tu peux comprendre. Jamais. C'est ça même la différence qu'il y a entre Torah et Mitzvot. C'est que Torah, c'est quelque chose qu'on peut percevoir. Et Mitzvot... Pardon ? Oui, mais je ne perçois pas la Kdusha qu'il y a dedans. Tu me dis que quand quelqu'un fait Kibbutz Avaim, il y a une Kdusha qui l'entoure. Je ne peux pas percevoir. Bien sûr. L'énergie sauvève.
Moi,
non, mais par contre, je vois comment... J'ai compris quelque chose. Je vois comment c'est intéressant, c'est beau. Donc là, le fait que tu me dis que la Torah, c'est quelque chose, c'est une chorma, c'est quelque chose qui est intelligent, même si je ne vais pas comprendre à l'état initial, je ne vais pas comprendre la chorma telle qu'Akadosh Baruch Hu l'a donnée. Mais je veux voir au moins une chorma qui ressemble à ça. Mais dans la mitzvah, l'akdusha, on ne pourra jamais l'apercevoir. C'est ce qu'on appelle le non-dit. Et pourtant, ça a une influence sur nous. Donc ça, c'est une notion qu'on va expliquer un peu plus dans ce chapitre. Alors, j'en suis avec Kacha Mamash. Attends. Alors, j'ai essayé de... Où je vous disais qu'on était? Non, Véhen Apirouche. Voilà. Donc, j'essaie de faire un tour rapidement à ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Bien que la semaine dernière, on a fini à 10h05.
Qui est-ce qui a été mémalé ou qui est-ce qui a été sauvé dans le cours? Qui a été mémalé et qui a été sauvé dans le cours?
Non, ça va, c'était comme ça, c'était même dès que j'ai commencé à dire, il le dit et le non-dit. Tu te rappelles aussi, il me dit, non?
Moi, j'ai besoin de rattrapage jusqu'à 10h05.
Hey, Napi Rouge. Vous avez ouvert Napi Rouge?
Oui, Napi Rouge.
Page
134.
Alors, on reprend la page d'avant.
134, 1, 2, 3, 4, ligne avant la fin, dernier mot de la ligne.
Voilà. On avait s'arrêté au début de la page ici, mais je vais reprendre ici. Eh, Napi Rouge, sauvez-vous ma kif milmala, biprinat makom, chasve shalom.
D'accord.
Donc, encore une fois, rappelez-vous, on est en train ici d'essayer de mettre des repères. Donc, pour essayer de mettre des repères, il faut qu'on comprenne qui est Kadosh Baruch Hu par rapport à nous. Alors, on comprendra jamais. Mais on va expliquer pourquoi on peut pas comprendre. Donc première chose qu'on a expliqué il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, on a expliqué que l'infini et le fini ne peuvent pas se comparer. D'accord. Bon, maintenant on continue. On va essayer d'expliquer maintenant l'énergie qui me fait vivre aujourd'hui. On va t'expliquer comment cette énergie-là, elle est beaucoup plus forte que toi. Pourquoi? Alors, elle explique. Il y a 2 canaux d'énergie qui vont me faire vivre en parallèle. On va rentrer dans les détails. On va parler, donc il y a l'énergie qui est mémalée. C'est l'énergie que je sens qui fait... Donc ça c'est l'énergie qu'on sent qui nous fait vivre. On va expliquer après. Mais là on va rentrer dans le sauvet. Quand on te dit qu'une énergie est sauvève, va m'entourer, ça ne veut pas dire qu'elle va m'entourer, biprinat makom, ça veut dire géographiquement ou spatialement. D'accord? Qui le shayar klal prinat makom beruchniut, puisque la notion d'endroit n'existe pas spirituellement. Dans le spirituel, il n'y a pas de notion d'endroit. Ça n'existe pas. La notion de l'endroit, le makom, c'est une notion qui n'existe que dans le matériel. Je peux être ici, je peux être là-bas. Dans le spirituel, il n'y a pas la notion de l'endroit. Pour ça, comme j'ai dit, c'est une dernière, j'ai dit, quand les gens ils disent le Gan Eden est en haut, le Gan Eden est en bas, ça n'existe pas. Le Gan Eden est ici. Il est partout. Et parce que dans le spirituel, il n'y a pas de notion d'endroit. Ça n'existe pas. Par définition, l'endroit, c'est une créature gashmi, c'est une créature matérielle. Donc, quand on te dit qu'une énergie divine de Dieu, une énergie spirituelle, elle nous entoure, tu comprends bien que ça peut pas, on peut pas s'agir, peut pas s'agir de quelque chose de spatial, de géographique, puisqu'il n'y a pas de notion géographique, il n'y a pas de notion spatiale dans le spirituel. Alors de quoi on parle ? Alors justement, on va expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit un makom spirituellement ? Et la rotse, c'est une bonne question. Et la rotse, c'est l'omar, seulement ça veut dire sovev ou makif milmala. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va entourer milmala d'en haut. On va expliquer. Lénian trinat gilou yashpa. Quand on te dit que quelque chose m'entoure, comme ce que je viens d'expliquer avec le dit et le non-dit, ça veut pas dire que le non-dit va m'influencer moins que le dit. Bien que quand je sors de la conférence, je crois que ce que je suis influencé, c'est le dit, et le non-dit, pour moi, ben, c'est comme si qu'il n'est pas là. Alors qu'en vérité, qu'est-ce qu'on va vous dire en psychologie? Que non, le non-dit, peut-être qu'il m'a influencé encore plus que le dit. Donc il nous dit la même chose à de Morazaken. Quand on te dit qu'une lumière, une énergie va être sauvée, va t'entourer, ça ne veut pas dire que l'énergie ne va pas m'intégrer. L'énergie va m'intégrer. Pourquoi je l'appelle sauvée? Pourquoi je dis que, par exemple, une lumière d'une mitzvah va m'entourer? Parce que je ne la ressens pas. Ça veut dire, quand on vous dit, par exemple, on vous dit, quand vous faites une mitzvah, vous allez avoir une lumière qui va vous entourer. C'est-à-dire quoi, elle va m'entourer? C'est-à-dire qu'elle ne m'intègre pas? C'est quoi cette histoire entourée? Mais le spirituel, c'est pas physique. Quand on dit entouré, c'est une notion que les hommes ont donnée pour expliquer le fait que c'est quelque chose qu'on ne peut pas percevoir, qui ne nous intègre pas. Pourquoi on dit qu'il ne nous intègre pas? Parce que on n'arrive pas à le ressentir. Mais en vérité, ça nous intègre. Qui a pas chez Biprinat Gilou Ibeolamot, ni Kret de Shem Al-Bacha. Pourquoi? Puisque quand on l'énergie que les créatures vont être capables de percevoir, c'est appelé Beshem Al-Bash. Alors après, on va donner un exemple.
De percevoir.
Chez Biprinat Gilou Beolamot. Après, il va donner un exemple. Il va donner plusieurs exemples. Je vais vous donner un des exemples qu'il va donner par la suite. Il va dire, par exemple, quand on va analyser la terre, le sol, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que je vais planter une graine et il y a de l'herbe qui va pousser. Enfin, il y a un arbre qui va pousser. Je vois clairement que j'ai planté et il y a quelque chose qui a poussé. Ça, c'est une manifestation de Dieu en mémalé, en mode mémalé. Ça, bien sûr que moi, je ne vais pas voir comment ici il y a une énergie et une étincelle. Ça, je ne verrai pas. Mais j'ai vu quelque chose. C'est du dit, ça. J'ai vu quelque chose. J'ai vu. Ça a poussé. J'ai vu. C'est comme dans la Torah. Je pourrais pas dire que la Gemara que j'ai compris, c'est ce que Dieu voulait dire à la base. Mais ça ressemble. C'est quelque chose. C'est 1%, c'est 0.5%, c'est un quart. C'est quelque chose. Ça s'appelle du dit. Ça, c'est l'énergie que je crois qu'on voit en même aller. C'est quoi l'énergie qu'on appelle en sauvève? C'est l'énergie qu'on ne voit pas. Par exemple, tu me dis, voilà, je te dis, c'est quoi ce morceau de popcorn? En vérité, il y a une énergie divine qui le fait vivre. Je le vois pas. Je le vois pas et je le verrai pas. Jamais je le verrai. Mais pourtant, je sais que c'est l'énergie divine qui le fait vivre. On a expliqué la semaine dernière, on dit que, qu'est-ce qu'il y a après l'atome? Comment est-ce qu'on avait expliqué que,
hein,
après l'atome, il y a le quark. Et après le quark, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le quark?
On sait pas encore.
On sait pas encore, mais c'est quoi le quark?
C'est la lumière.
C'est la lumière.
Ouais.
Ça veut dire qu'en vérité, la matière n'est que lumière.
Ça, c'est sûr.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, après on voit plus. Mais ça veut pas dire que c'est pas là. C'est nous qui ne voyons pas encore. Donc la différence entre mémalé et sauvef, c'est ce qu'on est capable de percevoir et ce qu'on n'est pas capable de percevoir. Il y a des choses qu'on peut percevoir.
Mais t'as pas l'impression que les actions, ils ont plus d'impact que les paroles? Alors j'ai envie de te dire que plus les mitzvot que j'ai envie de dire, c'est ça le mémalé. Mais par contre, l'étude de la Torah, ça peut-être...
C'est une bonne question ce que tu poses.
Ça me marque plus quand je fais une action. J'ai l'impression de faire quelque chose. Alors que l'étude, ok, tu veux prendre un livre, tu lis, bon, ben après.
Oui, mais encore une fois, on est en train d'essayer d'analyser ici. Comment je vais sentir l'énergie divine? Ça veut dire, quand je vais étudier quelque chose, quand je vais étudier la Torah, c'est quoi la Torah à la base? La Torah à la base, c'est la Chorma de Dieu. Ici-bas, qu'est-ce que je vais étudier? Je vais étudier aussi une parole de Chorma. Donc même si ma Chorma, c'est rien du tout par rapport à la vraie Chorma, mais c'est quand même quelque chose. Ça veut dire, en cause à effet, ça vaut quelque chose. On est d'accord?
La mitzvah qu'on va faire.
Alors que la mitzvah... Non, je parle de la gdusha que tu vas ressentir dans la mitzvah. C'est quelque chose qui n'est pas définissable.
Dans la mitzvah, tu compares aussi la gdusha dans la...
Oui. Non, parce que dans l'étude, je parle de la Chorma. Parce que dans ce cas-là... Bien sûr. Parce que étudier la Torah, c'est aussi une mitzvah. Hein? Ouais. D'accord. Là, je parle du côté chorma qu'il y a dans la Torah. Étudier la Torah, il y a le fait d'étudier la Torah, c'est une chose. Et étudier la Torah, c'est aussi une mitzvah. Ouais. Deux concepts. D'accord. Donc, c'est quoi les deux concepts? Le fait que je vais comprendre, quand je vais comprendre le cours, ben, ça c'est quoi? Ça c'est de la... Là, je vais... C'est du dit. C'est-à-dire, c'est quelque chose. Je vais attraper du dit de la Kadosh Baruch Hu. Mais le fait que tu me dises que quand t'es venu à un cours, t'as une lumière qui t'entourait. Je sais pas qui c'est qui m'a dit la semaine dernière. Je crois que c'est Dan Kadosh qui a dit qu'aujourd'hui en Israël, ils ont trouvé...
Ah ouais, t'entoures un mec
avec un talit. Ouais, ils ont trouvé que quand on fait une mitzvah, il y a des rayons qui l'entourent, je sais pas quoi. Enfin,
ils ont pris en arbre.
C'est gold. C'est gold. C'est toi qui as dit ça?
Une couleur violette.
Une couleur violette qui entoure.
La mitzvah. Ils ont fait ça avec un placebo. Ils ont mis une
pierre de tefillin.
Une passoule.
Et il n'y avait pas.
Il n'y avait pas. Ah. Mais pas la lumière. On dit Ram Segula, n'est-ce pas?
Ouais.
C'est pas de moi, hein, c'est d'un rabbin qui m'a dit ça.
Tu m'avais dit, c'est le Rav Zamir Cohen. Ouais.
Dans l'ultraviolet, quoi.
Je sais pas comment ils ont mesuré la...
Dans la partie de l'ultraviolet, donc, sûrement.
Ouais. Parce
que c'est Ségol.
On va parler tout de suite de l'ultraviolet, l'ultrason, on va parler de tout ça.
L'infrarouge.
L'infrarouge, ouais.
Non, c'est le côté.
Oui, c'est...
On va parler de tout ça. Alors, il dit comme ça. Donc ça veut dire que la différence qu'il y a entre Memalé et Sovev n'est pas que un va nous intégrer et l'autre ne va pas nous intégrer. Les deux vont intégrer le monde. Sauf que un, je vais le ressentir, donc je vais dire, oui, lui, il m'a intégré, et l'autre, c'est du non-dit. Je veux dire, j'ai pas ressenti, donc il n'est pas là, mais il est là. Et peut-être qu'il nous influe encore plus. Il nous influe encore plus que le dit. C'est pour ça que quand ma chère va venir, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qui sera plus fort entre l'étude et l'action? L'action. Parce qu'en vérité, le non-dit est plus fort que le dit. Sauf qu'aujourd'hui, quand tu demandes à quelqu'un, tu dis, comment tu ressens plus Dieu? Quand tu fais une mitzvah ou quand tu étudies la Torah? Où tu ressens plus? C'est-à-dire, écoute, moi je fais une mitzvah, tu me dis, dans un Sefer Torah et la Kdusha, je te crois, mais bon, je vois pas. Par contre, tu me dis, tu étudies une page de Gemara, et tu me dis, voilà, ressens, il y a la Chorma, je vois de la Chorma. Peut-être j'ai pas tout compris, mais je vois que c'est intéressant.
Mais faut que
le dit, le non-dit.
Il faut qu'il y ait du matériel ou pas?
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que, par exemple, si tu fais une mitzvah, que tu ressens quelque chose. Est-ce que tu penses c'est même aller ou c'est...
Ça veut dire quoi, tu ressens quelque chose?
J'aime bien cette question.
Tu te sens, ouais, sûr, non,
tu te sens différent, tu sens...
Oui, parce que je n'arrive pas encore à formuler la mienne.
Tu sens que t'as quelque chose qui se passe, que t'es différent, que, t'es, non, mais... que tu te sens bien, etc. Alors c'est quoi,
non,
ça?
Ça c'est du non-dit.
Donc tu peux ressentir le non-dit,
oui,
alors?
Oui, bien sûr. Donc la question qu'il y a quand même en train de poser ici, c'est est-ce que...
Bonne question.
Est-ce que... Oui, c'est...
Mais elle est subjective.
Non, mais ce qui veut dire... La question c'est comme ça, c'est est-ce qu'on peut ressentir le non-dit?
La
réponse est oui. On va reprendre l'exemple de la psychologie.
Puisque c'est subjectif, d'accord, tu peux certains le ressentent, d'autres...
Exactement.
Pas.
C'est comme quand je sors de la conférence. Quand je sors de la conférence. Ouais. Tu as ceux qui vont sentir que, ils vont retenir que le dit. Ils vont dire, voilà, lui, le professeur nous a dit ça, on a retenu ça. Mais t'en as qui vont être peut-être un peu plus intelligents, qui vont dire, oui, mais le professeur, dans sa manière de formuler, il est en train de nous manipuler. On a ressenti un non-dit. On n'est pas encore capable de le définir, mais on a ressenti un non-dit. Ça veut dire qu'on peut, ça peut se ressentir, bien sûr ça peut se ressentir.
Non, c'est vrai, c'est...
Mais c'est pas définissable, ça peut pas se définir comme le dit. Ça, on peut pas le définir clairement.
Non, parce que
ça peut être flou.
Ça voulait dire est-ce que quand tu sauvais, c'est-à-dire forcément tu le ressens pas, ou est-ce que tu peux ressentir le sauvais?
Non, c'est les hommes qui ont donné cette définition parce qu'ils ne peuvent pas le ressentir autant que le même aller. Ils peuvent pas le définir, tu comprends? C'est-à-dire la Torah, c'est définissable, c'est cartésien, c'est carré. Tu viens, il y a une question, il y a une réponse, c'est tout.
Il y a des fois, par exemple, tu veux faire un cours de Torah, par exemple. Soit si c'est du Sovev, tu comprends grosso modo le cours, même si tu comprends pas bien.
Non,
mais...
on va plutôt comparer Torah et Mitzvot, c'est plus simple.
Si, si, mais non, justement.
Non, le problème c'est quand on change, c'est difficile à comparer.
Non, un cours de Torah, justement. Soit tu comprends un petit peu, oui, le sujet, etc. Donc ça, tu vas dire que c'est même.
Très bien. Alors, on va rester sur la même chose. Je viens à un cours de Torah.
Ouais.
On va dire qu'il y a deux choses qui se passent en parallèle, en même temps, quand je viens au cours de Torah.
Voilà.
En parallèle. Premièrement, j'ai compris les idées que j'ai compris. Ça veut dire que j'ai compris une partie de la chorma d'Akadosh Baruch Hu.
Voilà,
même si c'est un millième ou un milliardième de la vraie chorma, mais c'est quelque chose. Ça, c'est une première chose.
Comme celui qui rentre et qui ne comprend rien et qu'on dit quand même il ressort.
Non, attention. Là, le premier point, c'est pas ça.
Non,
le premier point, je dis, c'est le fait que le dit. Ça veut dire ce que je ressors avec, ce que j'ai compris. Ça, c'est une première chose.
C'est par opposition quand on dit que quelqu'un il écoute un cours de Torah, il comprend rien.
Voilà. Alors là, on va passer au non-dit.
Si on dit que ça lui apporte quelque chose.
Là, je suis en train de lui expliquer le dit. C'est pour
ça. Je bascule à l'opposé,
oui,
volontairement.
C'est sûr, monsieur, attendez.
Celui qui suit le cours, il comprend. Il comprend le dit.
Le dit.
Au moins, ça,
au
c'est
moins,
sûr.
C'est sûr.
Mais non, l'autre personne qui est rentrée, qui s'est assise à côté, qui comprend rien.
sais même pas de quoi on parle.
Il n'a pas le dit.
Mais on dit qu'il sort avec quelque chose.
Il a le nom dit.
Quoi
le nom dit.
Le nom dit,
c'est sûr.
D'accord. Bon, alors maintenant...
Mais c'est en parallèle.
Troisième cas, maintenant.
C'est en parallèle. Donc justement, ça veut dire que c'est en parallèle. Ça veut dire que je peux venir à un cours, d'accord, écouter le cours et comprendre le dit, et ne pas me rendre compte qu'en vérité, il y a, par exemple, là maintenant, est-ce qu'on est en train de sentir qu'il y a une doucha autour de nous? Moi, je sens pas qu'il y a une doucha qui est en train de m'entourer. Bien qu'il y a une doucha qui est en train de m'entourer, et que la doucha qui est en train de m'entourer est beaucoup plus forte que ce que je crois comprendre maintenant, ouais. Ce que je comprends.
Ah, mais attends, il y a un qui dit, ouais, moi, je ressens la doucha. Pas forcément secours, en général.
Oui.
Non, mais c'est pas ça que je veux te dire.
Comme il t'a dit, c'est subjectif.
Ma question, c'est pas ça. Est-ce que c'est sauveur ou même aller, là?
C'est sauveur.
C'est ça, sauveur.
C'est ça, sauveur.
D'accord. Voilà, mais en même temps, est-ce que c'est une perception physique ou du corps ou intellectuelle?
Non, sauveur, ça peut pas être physique. Sauveur, ça peut pas être physique. Ça peut être simplement quelque chose qu'on ressent. Je peux ressentir quelque chose.
Par la vision, par... C'est pas comme du subliminal.
Non. C'est pas
parce que je perçois.
Non, la doucha, ça ne se voit pas.
Mon intellect peut-être peut me percevoir. Là, comment, c'est quoi cette forme de perception?
C'est par exemple, si tu considères que...
Ça n'arrive jamais d'aller dans un endroit où vraiment il y a...
Tu sens une doucha.
D'accord, le nom dit.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Le nom-dit, de quel niveau je...
Voilà. Tu veux que je te réponde honnêtement? C'est très difficile parce qu'il est fort possible. Il est fort possible que c'est purement psychologique.
On ne sait pas.
D'accord?
Non.
Je vais encore plus loin que ça.
Subjectif, là.
C'est pas seulement subjectif. C'est très possible que c'est psychologique. Que comme on m'a dit qu'un Sefer Torah c'est Kadosh, depuis que je suis petit, quand je vois un Sefer Torah, je dis c'est Kadosh.
Autosuggestion,
exactement. Alors c'est possible qu'en vérité, en réellement, mon corps n'a rien ressenti. C'est très possible.
Donc ça n'a même pas un sens.
Je sais pas.
Si, le corps il ressent.
Que ce qui est sauvé. Ça vient de l'individu vers Hachem, et ce qui entoure, c'est l'inverse.
C'est le contraire, tu veux dire.
Mais malé, pardon. C'est la chokhmah qui va vers Hachem.
C'est expliqué ça aussi. C'est l'homme qui va vers Dieu, voilà. Et sauvef, c'est Dieu qui descend vers l'homme. Oui, c'est aussi ça, mais c'est comme s'il y avait
deux personnes.
Donc, il va y avoir un grand rave.
On retrouve la condition
de la on est à côté de lui, ou tu vas voir le rabbi, les gens, ils ne ressortent pas. C'est l'autosuggestion ou c'est le rav qui rayonne?
Ça veut dire un goy, il vous dira c'est l'autosuggestion.
Non, mais moi je un goy ou pas un goy.
Bon, mais on voit clairement qu'il y a des gens qui ont été.
Même des goyim, ils ont souvent des rabbis et tout.
Et ils ont été bouleversés.
Ils ont été bouleversés. Donc, c'est même pas goy ou pas goy.
Maintenant, est-ce qu'ils sont capables de définir ce qui s'est passé?
Est-ce que cette proximité de quelqu'un qui, a priori, rayonne,
sauvève.
Est-ce qu'on reçoit?
Toute la kdoucha, c'est sauvève. Toute la notion de kdoucha.
Donc c'est ça, donc c'est quelque chose qu'on reçoit. Et la question qu'il va poser, M. Guidalia, c'est quoi?
C'est quelque chose que je vais ressentir.
On peut traduire, c'est quoi? Ça traduit quoi? C'est
quelque chose qui m'entoure. C'est pour ça que je pense que l'exemple que le Rav Sinzel s'amène... Je vous ai prévenu que c'est le 48 et 49, je crois que c'est les deux chapitres, avec le 22 et 23, je crois que c'est les chapitres les plus compliqués de la première partie du Tania. Je pense que le non-dit, c'est un très bon exemple. Pourquoi c'est un très bon exemple? Parce que le non-dit, c'est quelque chose que des fois je vais sentir d'un endroit et je dis, mais attends, il est en train de manipuler. Mais je ne vais pas être capable de définir comment et pourquoi. Et c'est quelque chose qui va m'envelopper. Il va expliquer un peu plus cette notion. On va laisser le Tania parler un petit peu plus dans les mots et après on continuera.
On est désolé.
Alors. Non, c'est...
désolé.
Ch'en kenash pa. Au contraire, ça ira plus vite. Chen kanash pa, chen amuprinat gilouy et la best. Donc où j'en étais, ma chen que vous avez?
On a dit Bechem al-Bashar.
Donc ça veut dire comme ça. Quand on dit que il y a une énergie d'Akadash Baruch Hu qui est mémalée et l'autre qui est sauvev, une va nous intégrer et l'autre ne va pas nous intégrer, ça veut pas dire que dans la réalité, une va nous intégrer et l'autre ne va pas nous intégrer. En réalité, les deux vont nous intégrer. Le dit et le non-dit vont m'intégrer et vont m'influencer. Peut-être le non-dit m'influencera encore plus que le dit. Seulement quoi?
Sur moi.
Seulement quoi? Moi, je vais appeler le sauveur, je vais dire que lui, le sauveur, il m'entoure, c'est du flou. Pourquoi? C'est par rapport qui elle m'a bichim ou m'a sigi m'a chpa chez mes kablim. Quand je ressens, quand je suis capable de ressentir et de définir, moi je dis, là il y a une question, là il y a une réponse, je suis capable de définir ce qui s'est passé. Là je dis, ah, ça c'est du mémalé. Ça c'est du mémalé, ça c'est quelque chose que j'ai intégré. Ma chenken a chpa chez nam iprinat gilou yelabe ester VLM. Alors que l'énergie d'Akadosh Baruch Hu, qui ne se dévoilera pas, mais que par définition, elle peut pas se dévoiler, et là, Bester VLM, on sent que c'est caché. Alors après, t'en as que Bichlal, ils vont pas voir que c'est caché, et t'en as qui vont sentir qu'il y a quelque chose de caché. Mais encore une fois, le définir, tant que ma chère n'est pas là, on pourra jamais voir la Kdoucha. On peut pas voir la Kdoucha comme je vois un objet. Il y en a qui vont ressentir, il y en a qui vont pas ressentir. Et ina mit la béchette. Donc ça c'est quelque chose que les mondes, quand on dit les mondes, ça veut dire pas seulement nous, même au Gan Eden. Même au Gan Eden, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas percevoir par définition. Et là, ma kefet vesovevet, il car c'est pour ça. Mais achar, shaolamot, mifrinat, gvul vetachlit, nimsa, she'en, ashpat, orensof, mitlabesh, mitgalet, ben, mifrinat, gilouy, rak, meat, miser, aram, mouetet, mitsunsemet, meod, meod, vei rak, kede, lachayuta, mifrinat, gvul vetachlit. Là, c'est pour ça que l'exemple du Nudi et du Nudi est un très bon exemple. Pourquoi? Parce que là, il nous explique le Morazaken. Alors, nous, on se pose la question suivante. Pourquoi tu as besoin de rentrer dans cette trélo? Tu me dis des choses que je ressens, des choses que je ressens pas. En vérité, c'est un reset que Kadosh Baruch Hu a fait avec nous. En vérité, il aurait pu nous faire vivre sans cette partie de dit. C'est-à-dire sans qu'on comprenne du tout ce qui se passe. Sans qu'on voit des choses qui se passent. On aurait peut-être ressenti quelque chose qui nous entoure, mais sans qu'on puisse avoir au moins une quantité infime de choses qu'on peut toucher. D'accord? Pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait ça? Akadosh Baruch Hu a fait ça avec Irak et la Chayuta Mbrinat Gvul Vetachlit. La seule raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a fait ça, c'est pour nous donner une définition limitée. Puisque Akadosh Baruch Hu est illimité, pour que notre monde ait une définition, tout le monde gagne l'on est, pour que notre monde ait une définition limitée, Akadosh Baruch Hu a fait qu'une partie de l'énergie qu'il va nous envoyer va être dans un cadre limité. Aval, je lis dans les mots, après je vais expliquer. Ikar or, bli tzimtzum kolkar, nikra, makif vesovev, me'achar she'en nashpa'ato mitgalet betocham, me'achar she'en biprinat gvul vetachlit. Ça veut dire que le principal de l'énergie qui va faire vivre le monde est une énergie qui ne sera jamais visible. Et le peu que nous on va voir, et que Kadosh Baruch Hu avec son chesed, il fait qu'on va voir des choses. Voilà, par exemple, aujourd'hui, on va voir les atomes, après les atomes, il y a les quarks. C'est quoi les lumens? Lumens, c'est quoi les lumens? C'est pas un truc lumière? Bon. Alors, les atomes et les lumens. Kadosh Baruch Hu a fait un reset, qu'on voit quelque chose. C'est-à-dire, voilà, on a vu avec le microscope, on a vu. D'accord? Ça, en vérité, c'est Kadosh Baruch Hu qui a fait qu'une quantité infime de ce qui devait nous, de l'énergie, il a dit, cette quantité infime, je vais la rendre visible. Pourquoi? Parce qu'il a dit comme ça, hein, le monde va se sentir indépendant. Parce que sinon, si on comprend rien à ce qui se passe, d'accord, si on se sent pas indépendant, bah naturellement, il n'y a pas de libre-arbitre. Parce que je dis, bah, de toutes les façons, je comprends pas ce qui se passe, donc il n'y a pas de libre-arbitre. D'où vient le libre-arbitre? Comme l'homme se sent indépendant, il dit, voilà, je comprends ce qui se passe, je comprends, etc. Donc, quelque part, j'ai pas besoin d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a mis une quantité infime de l'énergie en mode dévoilé, en mode même aller, en mode dit, pour que la personne croit être indépendant. C'est comme le professeur. En vérité, c'est un manipulateur. Il a passé la majorité de ses messages en mode non dit. Mais pour que les gens ils sortent en disant « Ouais, il nous a manipulé », il va leur passer 5% en mode dit. Pour qu'ils en sortent, ils disent « Ah oui, on a compris, c'était bon. » Mais t'as rien compris, le dit, c'était camouflage. En vérité, le principal, il te l'a passé par derrière, sans que tu t'en rendes compte.
Et les êtres iront à la copie, c'est la même chose.
Elle est en mode dévoilée. Donc, c'est un chesed que Kadosh Baruch Hu a fait avec nous. Mais en vérité, le principal de l'énergie qui nous fait vivre est une énergie qui n'est pas visible.
Ça veut dire qu'elle est infinie.
Bien sûr, elle ne peut pas être visible.
Vas-y, qu'elle est infinie.
Impossible. Enfin, elle est spirituelle, elle est infinie, elle n'est pas visible. D'accord, c'est le nom dit. Alors, va Machal Bazé. Vous savez, le Zohar nous explique les choses suivantes. Alors, on le verra par la suite aussi. Il nous dit que dans le spirituel, plus on monte dans la lumière, après la lumière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'obscurité. Bon, je vais expliquer avec ça ce qu'on veut dire ici. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? On est en train de dire que qu'est-ce qu'on appelle Mémalé, qu'est-ce qu'on appelle Sovev? Mémalé, c'est une énergie qu'on arrive à s'en ressentir. Et Sovev, c'est le non-dit, ça veut dire ce que j'arrive pas à ressentir. Et comme j'arrive pas à ressentir, je dis alors il n'est pas là. Pourquoi tu dis il n'est pas là? Dis je comprends pas. Alors, on va amener un exemple suivant. C'est un exemple que le Zohar amène. Le Zohar, il dit comme ça. Il dit quand on va analyser la lumière, quand on va monter, à un certain moment, on va arriver au plus grand niveau de la lumière qu'il y a. Après ce niveau-là, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y aura l'obscurité. Pourquoi j'appelle ça l'obscurité, hein? J'appelle ça l'obscurité parce que je n'arrive pas à définir cette lumière. Alors, le Rav Stenzel, s'il amène, enfin, moi, j'ai pas étudié la physique, mais il dit qu'en physique, d'accord, tout rayonnement qui dépasse l'infrarouge ou l'ultraviolet est appelé obscurité. On le définit par obscurité. Bien qu'il n'y ait pas d'obscurité, c'est quelque chose qu'on ne voit pas encore. Dans la physique, j'ai pas appris la physique, mais c'est lui qui le dit. D'accord? Ça veut dire les rayons, on va analyser, on va donner un nom à chaque chose. Donc tu vas dire voilà, infrarouge, ultraviolet, etc. Et après, une fois qu'on ne voit plus, on sait qu'il y a quelque chose derrière, mais on ne voit plus, qu'est-ce qu'on dit? On dit après c'est l'obscurité. Mais non, c'est pas l'obscurité. Ça peut pas être l'obscurité puisque c'est la source de la lumière. Pourquoi tu l'appelles l'obscurité? Parce que je ne vois plus. Comme moi je ne vois plus, donc je dis c'est l'obscurité.
Les rayons ultraviolets, les rayons infrarouges, on ne les voit plus.
D'accord.
Ils sont visibles, on ne les voit pas.
Voilà, exactement. Ils sont
visibles. Ce que je veux dire, c'est que quand tu dépasses les rayons X,
on sent l'impact, mais
après, on est dans des longueurs d'onde qui sont que des ondes non visibles.
Mais qu'on peut ressentir, c'est-à-dire ressentir leur impact.
Même avec des appareils, c'est ça qu'on veut dire.
Ouais, il n'y a pas.
Tu ne peux pas voir. La seule chose que tu peux ressentir leur impact.
Non, disons que c'est les émissions radio, les ondes,
exactement.
Les
photons
et tout ça. Ce sont des rayonnements, mais ils ne sont pas visibles. Ils ne sont pas lumineux, voilà. Des rayonnements non lumineux.
Sans même passer par un homme, on a tous des rayons qui nous entourent, un rayonnement qui nous entoure. Mais on ne le voit pas, c'est pas visible. D'accord? Ça peut être un rayonnement de chaleur, un moment de ce que tu veux. C'est des rayonnements qui nous entourent.
Non, non, voilà.
Mais pourtant, ouais. Qu'est-ce qu'on dit en physique? On dit en physique que jusqu'à l'ultraviolet ou bien à l'infrarouge. Et après ça, on sent qu'il y a quelque chose après, mais on dit ça c'est l'obscurité. Pourtant, c'est pas l'obscurité. C'est mes machines qui sont pas encore assez perfectionnées pour le voir. Pourquoi j'appelle l'obscurité? Parce que je ne le vois pas. Ça, c'est une preuve que quand une personne n'arrive plus à voir quelque chose, même s'il sait qu'il y a quelque chose de très très fort, mais que c'est lui qui n'est pas assez perfectionné et sophistiqué pour le voir, il dit « Ah, après, c'est l'obscurité ». Ça veut dire que l'obscurité n'est pas forcément synonyme de problème. Obscurité, c'est synonyme de quelque chose que je ne vois plus. Donc c'est la même chose. Quand on parle de Sovev, quand le Zohar, il parle de Sovev, d'accord? C'est un chidouche de Morazaken, ça. Quand le Zohar, il te parle de Sovev, il te dit que t'as une énergie qui nous intègre et une autre énergie qui nous intègre pas. Ça veut pas dire qu'elle nous intègre pas, parce que dans le spirituel, il n'y a pas de notion d'endroit. Il n'y a pas de notion spatiale. Alors qu'est-ce que ça veut dire Sovev? C'est les hommes qui vont donner la définition Sovev, parce que, comme on n'arrive pas à ressentir comment ça nous intègre, donc on va appeler ça de l'obscurité. On va appeler ça quelque chose qui ne m'intègre pas. Parce que je ne ressens pas comment il m'intègre. Exactement comme l'exemple de la physique qu'on vient de donner. Même aller, Sovev. Ça complique encore plus, là. Hein. Ouais, on essaye de mettre des repères, mais ça complique encore plus. Ça, c'est le deuxième repère qu'on est en train de placer. Premier repère, on a expliqué que l'infini et le fini, il n'y a pas de commune mesure. Faut pas les comparer. Vous rappelez ce qu'on avait dit? On avait dit que 1 par rapport à l'infini et 1 milliard par rapport à l'infini ont la même valeur. Ça veut dire que nous, par rapport à Kadosh Baruch Hu qui est infini, et le Gan Eden par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est kiff-kiff. C'est la même valeur. Mathématiquement, c'est la même valeur. C'est la même chose. Donc déjà, on a brouillé les pistes. Maintenant, on va encore plus loin que ça, on te dit, sache que ce que tu crois comprendre, le dit que tu crois comprendre, c'est un camouflage pour que tu te sentes quelqu'un, pour que tu te sentes indépendant. Mais en vérité, la majorité de l'énergie, le plus clair de l'énergie, ne passe pas par là, il passe par le canal du non-dit. Et là, on comprend encore plus pourquoi on peut pas comprendre.
Bah, quand même, l'énergie, même l'énergie que tu peux ressentir, est bien l'énergie infinie. L'énergie finie est bien l'énergie infinie. L'énergie de Memalé, elle vient de Sovev.
Bonne question. On a expliqué que le Memalé et le Sovev rentrent déjà dans la catégorie du fini. C'est déjà du fini, du défini. Sauf qu'il y a le fini qui est invisible, d'accord? Parce que le non-dit, puisque quelque part un jour, au bout de 40 ans, tu le trouveras, donc ça veut dire qu'il est défini. Sauf qu'on ne l'a pas encore trouvé.
C'est ce que tu appelles ton infini, c'est
l'infini, c'est Ein Sof.
Mais la lumière qu'on a, c'est l'Ein Sof, ça vient de là.
J'explique. Alors c'est ça, on va expliquer à la fin du chapitre. C'est-à-dire comme ça, ça c'était la machloket qu'il y avait entre le Ramak et le Harizal. Le Harizal il dit la chose suivante, il dit que Akadosh Baruch Hu pour créer le monde, à un certain moment il y a eu la rupture, donc c'est le Tzimtzoum. Et le Harizal dit que tout ce que nous on connaît, Memalé et Sovev, c'est seulement après le Tzimtzoum. Tout ça intervient après le Tzimtzoum, mais on n'a aucun rayonnement du Or Ensof, enfin du Ensof en soi. Ça on verra à la fin du chapitre. D'accord. Donc en vérité, on a trois lunes. Enfin,
non, c'est pour ta rupture que je posais la question.
Oui. À la rupture. Ah. Là, tu écouteras dans le site Tania 48B.
Slash, non? Cours slash?
Non, le cours 48B.
Ah.
Ah, parce qu'on a eu tout un cours sur ça, je peux pas sur un pied. Alors, dans les mots. Pardon?
Bah, il fait des signes pour dire qu'on s'aime fait comme ça.
Des signes, on dit ou on en dit?
On dit. Il a dit, il en dit.
On en dit, mais on signe quand même.
Il y a deux semaines, il y a quelqu'un qui m'a dit, qu'il a lu un livre dans psychologie, qu'on lui a dit que Là-bas, dans ce livre, il disait que le visage, ils ont retrouvé dans le visage au moins 1 million de messages qu'une personne peut faire passer par son visage. C'est-à-dire sans même parler. L'expression. Juste avec les yeux, avec le regard, différents types de regard, etc.
Light to me.
Comment ça s'appelle?
Non, il y a une série américaine qui est basée là-dessus, Light to me.
Mais les joueurs de poker...
Un type, il analyse juste le...
Ah, Light to me, d'accord, light, un mensonge, d'accord, oui.
Il a le visage, il y a des petits images d'attaque, il attrape le mec.
Morphopsychologie.
Il y a le visage, il dit la vérité.
Les yeux, surtout les yeux, on dit. Les yeux, que c'est...
Bon, mais on peut les contrôler, il y a des choses qu'on contrôle plus difficilement.
Les yeux, c'est assez.
Ouais. Il y a des gens qui arrivent à vider leurs yeux, entre guillemets. C'est des gens qui arrivent à ça.
C'est un travail.
Bien sûr.
Un truc commercial, tu as connu ça.
Ouais, commercial.
Il n'a pas affaire avec des services secrets en face de lui.
C'est un artiste, c'est un commercial. Ouais.
Alors il dit comme ça. Il dit, il va mâche albazé et...
Tu essayes de suivre.
Va mâche albazé et... Non, mais pas dans les mots.
Non,
c'est comment, une toilette.
Non, mais les yeux, c'est vrai que
c'est...
Et je te redonne la
ça marche.
Va Mash va donner un exemple. Iné. A Aret Salazo à Gashmiut. On va essayer de donner un exemple. D'accord. Qui va nous concerner un peu plus, qui va être un peu plus près de nous. On aura deux exemples. On va commencer par un premier exemple pour expliquer ce concept de dit et de non-dit. Et que c'est pas parce que on ne voit pas cette lumière qu'elle n'est pas la lumière, qu'elle n'est pas l'énergie principale qui nous fait vivre. D'ailleurs, en passant, quand on m'a dit que, je crois que c'est Yaakov qui m'avait dit que les quarks c'est de la lumière, avec ça j'ai compris pourquoi dans le Zohar, chaque fois qu'on nous parle d'énergie divine, on nous parle de lumière. Bon, alors moi j'ai toujours compris que pourquoi on nous parle de lumière, ce qui est expliqué, on dit parce que la lumière, c'est ce qu'il y a de plus fin qu'on connaît, parce que la lumière, ça ne peut pas se toucher. Mais bon, pourquoi on parle de lumière? Alors maintenant qu'on voit que dans la science, on nous montre que l'œil humain, le plus loin qu'il peut aller, c'est la lumière, c'est-à-dire quand on va analyser la matière, ben, au final, on va voir qu'il n'y a pas de matière. D'accord ? C'est le mouvement qui fait la matière.
Non, tout est rayonnement.
Tout est rayonnement. D'accord ? Or, donc on comprend, pour un vol d'or. Ah, c'est énorme. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu fait, qu'avec nos yeux, on peut voir ça. Sans passer par la Torah. C'est un reset d'Akadosh Baruch Hu, ça. Avec ça, on voit que plus on s'approche de Mashiach, et plus Akadosh Baruch Hu est en train de nous dévoiler des choses, de nous montrer que certaines choses sont accessibles.
Il fait des bons entre la science et ce qu'il
en fait. Si on aurait pris quelqu'un il y a 300 ans, et on lui aurait dit, voilà, tu sais, ici, dans cette assiette, il y a de la lumière. Il m'aurait mis deux claques, il m'aurait interné. On dit, animal, ma boule, il y a de la lumière, un peu de lumière ici. Et maintenant, ça s'explique. C'est un chesed d'Akadosh Baruch Hu, ça.
L'inverse aussi, hein.
Oui, bien sûr. Afal pi ken.
Parce que si à 300 ans, tu aurais dit, le monde a été créé il y a 5000 ans.
Oui, j'ai bien compris.
Ans, oui, je peux le croire. Mais maintenant, les gens disent, carbone 14, machin, ça marche pas. Quoi. Donc, il y a les deux, quoi.
C'est que c'est à double sens. Double tranchant. Bien sûr. Bon. Okay. Et ma chère n'est pas encore là. Pas non plus.
Il est pas loin, il est pas loin.
Il dit comme ça, ben Machal basé. Un exemple. Iné. Arrête à la zoa gashmiut. Cette terre. Arrête à la zoa gashmiut. Cette terre matérielle. Donc notre terre. Quand je parle de la terre, on va pas parler de la terre, la planète Terre. On va parler du... La terre, le sol.
Le minéral et le végétal.
D'accord, le minéral, le végétal, ce qui pousse de la terre. Bon. Af, shemlo, kolaaret, kvodo. Bien que, on sait très bien. D'accord. Alors, c'est intéressant la manière comment Alan Morazakan a présenté son machal. Quand on présente un machal en général, un exemple, comment on fait?
On ne dit pas tout de suite qu'on parle de Dieu.
Je démarre d'abord parce que je connais. Et après, je dis, bon, de la même manière que tu as compris ce qu'on connaît. Alors, pareil. Ce que tu connais pas, ce sera la même chose. L'Admor Hazaken, quand il commence, il dit, bon, quand il analyse la Terre, il dit, bon, alors la Terre. De la même manière qu'on sait que Akadosh Baruch Hu est là, hein, de la même manière le matériel existe. Ça veut dire que pour lui, ce qui est le plus pachout, ce qui est le plus évident, c'est le fait que la Terre est spirituelle.
C'est ça le machal, pour lui.
Pour lui, c'est ça le machal. Bon, mais nous, on va comprendre quand même. Ah, chez Mlokol Aret Kvodo, notre Terre matérielle, bien que Mlokol Aret Kvodo, bien qu'on sait très bien ce que Isaïe dit. Qu'est-ce qu'il dit, Isaïe? Isaïe dit que le prophète Yeshaya, il dit que Mlo Kolaret Kvodo, que l'honneur d'Akadosh Baruch Hu emplit toute la terre. Ça veut dire quoi l'honneur? Il n'est que dire oui, l'honneur, c'est le rayonnement. Il dit non. Ve'ainu Or Ensof Baruch Hu. Quand on dit l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas seulement le nom de la personne, parce que l'honneur d'une personne, c'est des, l'honneur, c'est a priori, c'est pas défini. Il dit non, c'est Dieu qui emplit cette terre. Comment je sais comme c'est écrit. D'accord, toujours, donc ça reste écrit dans Yirmiya. Allo et Hashamaim et Haaretz animalé. Dieu il dit explicitement, il dit le ciel et la terre, j'emplis le ciel et la terre. Donc j'intègre le ciel et la terre. Donc on va prendre l'exemple de la terre. Voilà, je vois ici la terre, je vois ici que ça va pousser et tout. Bon. En vérité, nous dit le Morazakel, nous on sait que si ça pousse, pourquoi ça pousse? C'est parce qu'il y a Kadosh Baruch qui est là en train de faire pousser. On sait que pourquoi ça pousse, parce qu'il y a Kadosh Baruch qui est là, et Hashemaim va t'arrêter animalé, il y a Dieu qui intègre à ce moment-là, et si ça pousse, c'est parce qu'il y a une énergie divine qui fait que ça pousse. Afal Piken, quand même. En miklabesh betocha biprinat gilou yashpa. Mais ce que nos yeux vont voir, ce que les humains vont voir, rak rayut me'at miser. De tout ça, qu'est-ce que l'œil humain va voir? Il va voir qu'une énergie infime. Qu'est-ce que l'œil humain va voir? Il va voir, il va dire, ah, t'as vu? On a planté, et ça a poussé. C'est l'énergie, ça. Pour nous, quand on veut s'imaginer la force d'Akadosh Baruch Hu, regarde la beauté d'Akadosh Baruch Hu. On va planter une graine, et d'une graine va pousser un arbre.
Scientifiquement, on te dit même pas ça.
Hein. Ouais. Alors, deux secondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ça en vérité, après peu importe le processus, comment ça se passe, mais ça veut dire, j'ai planté quelque chose, d'accord, ça va se détériorer et ça va pousser. D'accord? Cette énergie-là, d'accord, que moi je crois, je dis, ah, regarde comment c'est beau à Kadosh Baruch Hu. Mais ça c'est l'énergie visible. Moi je crois, c'est l'énergie que, c'est le dit, ça, c'est ce que Kadosh Baruch Hu a bien voulu montrer. Mais en vérité, Vechol Or En Sof Baruch Hu, Nikra Sova Valea, et toute la lumière divine, toute l'énergie qui fait que ça va pousser, donc ce qui va faire tourner le mécanisme, ça c'est du sauveur, c'est du non-dit. Afshu betocha mamash. Bien que c'est ça même qui le fait pousser. Ça veut dire qu'en vérité, l'énergie que moi je vois, c'est du camouflage. Ça veut dire que quand moi je vois la terre, je me dis, ah regarde comment c'est beau à Kadosh Baruch Hu, la nature, voilà, la nature. D'accord? Teva en hébreu, ça vient du mot tubrou. Tubrou en hébreu, ça veut dire noyer. Noyer. Tubrou biyam souf. Noyer. Quand je vais voir la terre, et je vois le sol, je vois comment ça va pousser. Je dis, ah, ça c'est l'énergie divine. On te dit, tu as raison, le fait que ça pousse, c'est grâce à l'énergie divine. Mais ça c'est le camouflage d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il t'a montré juste un petit truc pour que tu dis, ah, regarde, ça pousse. Mais en vérité, qu'est-ce qui fait que ça pousse? Pour répondre à ta question tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que ça pousse? On peut pas le voir.
Sauveur.
Qu'est-ce que c'est du sauveur, ça? C'est du non-dit, ça. Bon, jamais on verra pourquoi ça a poussé. Pourquoi, quand j'ai planté, ça a poussé. On sera seulement capable de te dire, que quand si je vais planter, ça va pousser. Mais est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi quand j'ai planté, ça va... On va faire que reporter le problème. On va dire oui, parce que la nature. Mais après,
mais
on arrivera toujours à un blocage.
Mais quelque part, le non-dit là, il m'impacte pas.
C'est-à-dire très bien. Que
disais, c'était pas
oui.
Ça.
Ça veut dire que la nature...
Le dit et le non-dit, les deux avaient un impact. Là, la nature, il pousse à côté.
Non. Ah, pourquoi tu dis qu'il n'y a pas d'impact? Parce que je sens pas comment il y a un impact.
D'accord. Quand tu disais... L'exemple du maître après 40
discours.
Ans.
Oui.
Après 40 ans.
Oui, 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 oui.
Donc il y a quand même un impact.
C'est très bien.
Puisqu'au bout de 40 ans.
Alors, nous, nos 40 ans, c'est Mashiach.
D'accord.
C'est écrit que quand Mashiach va venir, verra ou Kolbassa, Yardav. Que c'est écrit que là, on verra de nos yeux comment ce qui anime la matière, c'est Dieu.
Donc,
mais là, aujourd'hui, ce non-dit, on ne le voit pas.
Donc ni on le voit, ni il nous impacte.
Ça veut dire, aujourd'hui, quand je vois un arbre en train de pousser, je vois que le camouflage que Kadosh Baruch Hu a mis. La quantité infime que Kadosh Baruch Hu a mis pour que je croie que le monde. Que le monde tourne tout seul, le monde est indépendant. Mais en vérité, qu'est-ce qui fait que l'arbre pousse? C'est le sauveur, c'est le non-dit. Sauf qu'aujourd'hui, on ne le voit pas. Et qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach va venir? Verraou Kolbassa Yardel qui fait Hachem d'hiver.
Bon,
c'est écrit que là, de nos yeux, on verra que ce qui anime la matière, c'est Dieu. C'est le spirituel. Aujourd'hui, on ne le voit pas, c'est du non-dit
donc,
aujourd'hui.
C'est pas à travers l'essence, alors. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas à travers l'essence que ça passe.
D'accord. Mmh. Alors, dans les mots.
On sait pas à travers quoi.
J'ai perdu
mon ligne.
Oui.
Ça peut pas être à
travers les sens. Donc je lis dans les mots.
C'est un sens qui n'est pas forcément les cinq sens.
C'est un sens.
C'est
lequel? Dis-moi un sens qui n'est pas à travers les cinq sens, je connais pas moi.
Mais si.
C'est comme le.
C'est comme le parapsychologique.
C'est genre interdit alors.
On peut donner un exemple, d'accord?
Sixième sens.
Le Rav Tenzel aussi, il a un exemple sur ça.
Sixième sens. Le cinquième élément, c'est la concentration des quatre premiers.
Alors, je vais essayer de répondre à ta question. D'accord. Le Rav Tenzel, il dit la chose suivante. Il dit, quand on parle de l'infini quantitatif, ça veut dire par exemple, tu dis que l'infini quantitatif, ça veut dire que, comme tu m'as expliqué, que par exemple, voilà, imagine-toi que cette amende-là, il y en a à l'infini.
D'accord.
Un infini dénombrable. C'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas se dénombrer. Je crois qu'on appelle ça, en mathématiques, on appelle ça, je crois, un nombre transcendant. Non, il n'y a pas une notion comme ça, un nombre transcendant.
Je
cherche un... J'ai vu sur Wikipédia tout à l'heure. Nombre transcendant.
Les bateaux, ils sont là.
Ça s'appelle les nombres transcendants. C'est ce qu'on ne peut pas définir. Enfin, cherchez sur Wikipédia, vous allez voir.
Non, nous, on dit, you did your homework. En fait,
toujours.
Toujours, c'est vrai.
Alors, donc pour répondre à ta question, comment on peut définir l'infini?
Comment on peut définir
l'infini? Est-ce qu'on peut définir l'infini?
Non, on peut le définir, non. On peut le qualifier, est-ce que tu veux le définir?
Est-ce qu'on peut définir... Comment, alors, si je te demande de me définir l'infini, si je demande, qu'est-ce que c'est l'infini?
C'est quand il n'y a pas de limite.
Ouais, c'est ce qu'on va donner une définition.
Alors, on va procéder par élimination.
Ça veut dire,
procéder par élimination, ça veut dire, je vais te dire...
Ça veut pas dire pourtant qu'on va le toucher.
Très bien.
Voilà.
Ça veut dire quoi? Comment je vais définir l'infini? Comment je vais expliquer à quelqu'un qu'est-ce que c'est de l'infini? Sans que je sache ce que j'ai.
Ouais. Enfin,
je vais procéder par élimination. Ça veut dire quoi procéder par élimination? Ça veut dire, je vais te dire, enfin, imagine-toi le plus grand chiffre que tu peux connaître.
Voilà.
Imagine-toi. Il va se l'imaginer, je vais dire, bah, c'est plus haut que ça. Après, dans 10 ans, il va revenir et dire, j'ai trouvé un plus grand. Je vais dire, bah, c'est encore plus.
D'accord.
Ça veut dire que tu procèdes par élimination. Tu dis, ce que tu connais, c'est pas ça. C'est la même chose que même. C'est la même chose. Ce verbe, c'est, on pourra jamais le sentir. Ce que tu crois sentir, c'est pas ça. Seulement, on peut se dire, ça veut dire, on peut procéder par élimination. Mais ça, c'est une notion qu'on va mieux comprendre dans le chapitre prochain. Je sais que c'est pas très clair. Chapitre 49, ça. Là, pour l'instant, dans le chapitre, rappelez-vous, chapitre 48, chapitre 49, chapitre 48, on essaie d'expliquer, on met des repères, on essaie d'expliquer comment l'homme est rien du tout par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et chapitre 49, on va expliquer comment, pourtant, d'accord, pour, comment, bien que l'homme est rien du tout par rapport à Kadosh Baruch Hu, l'homme a quelque chose à apporter au monde. C'est 49. Bon. Alors dans les mots. Nachar, Shen, Ashpato, vous avez trouvé ?
Je peux vous donner l'adresse si vous voulez.
Non, ça y est.
Je vais vous citer deux secondes, j'ai enregistré.
En mathématiques, un nombre transcendant sur les rationnels est un nombre réel ou complexe. Qui n'est racine d'aucune équation polynomiale.
Ah, regardez, moi j'ai enregistré, elles sont mauvaises.
Alors maintenant, on va faire regardez. Un polynomial et on a...
Alors, une... je vais vous lire. Non, mais je vais vous lire des parties. Là. En mathématiques, un nombre transcendant sur les rationnels est un nombre réel ou complexe qui n'est racine d'aucune équation polynomiale.
Deux points.
Alors, écoutez bien.
Ah, pardon.
Allons-y.
Tu sais
donc, attendez, écoutez bien. Un nombre réel ou complexe.
Ils ont donné la formule polynomiale.
Oui.
A, I, A, L, X,
c'est un exemple, oui.
D'accord.
Non, c'est pas un exemple, c'est la formule.
Alors, un nombre réel ou complexe est donc transcendant si et seulement s'il n'est pas algébrique.
C'est très.
D'accord. Les nombres transcendants ne sont donc, jamais rationnels. Combien de dire ce qu'on est en train de dire?
Quand on dit rationnel,
c'est... Non, mais rationnel, c'est une classe des nombres.
J'ai compris, oui.
C'est rationnel, il y a des...
Oui, j'ai compris, bien sûr. Parce que rationnel, c'est un lien vers autre chose. J'ai vu aussi le lien.
Ah, d'accord,
c'est Wikipédia, attendez. Bon, voilà.
Néanmoins, tous les nombres irrationnels...
ne sont pas...
transcendants.
Bon, après, à la fin, après, à la moitié, il y avait des formules un peu, là, j'ai lâché. Vous verrez sur Wikipédia.
La racine carrée de 2 est irrationnelle.
Voilà.
Mais une solution de l'équation polynomiale ouais. x2 moins 2.
Alors ? Bon, c'est un exemple.
C'est pas ça qu'il voulait dire forcément, non ?
Un exemple. Alors, bon, je vais continuer dans les mots.
L'ensemble de tous les nombres transcendants et nombres dénombrables.
Ça, c'est l'arbre d'état infini dénombrable.
Puisque les polynômes à coefficient...
Allez, mais moi je continue, hein.
Allez, vas-y.
Alors, Me'achar, vous avez dans les mots Me'achar ?
Voilà.
Mercha.
C'est encore le coup à Leibniz, ça.
Shen Ashpato. Ouais, après, il y avait des noms et tout que, bon, j'ai pas compris.
Leibniz, c'est connu.
Mercha. Shen Ashpato mitgalet bayoter. Rak mashpiaba brinat ester vele. Ça veut dire comme ça, hein. Moi, quand je veux voir la terre en train de pousser, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, ah, ça, c'est l'énergie divine. Ça, c'est du camouflage. En vérité, qu'est-ce qui fait que la terre pousse? C'est le sauveur, c'est le non-dit. Mais pourquoi je le vois pas? Parce qu'il est caché. Parce que par définition, le sauveur est caché. On peut seulement ressentir l'impact qu'il a sur moi, mais je ne peux pas le toucher, je ne peux pas le sentir. Tout ashpa, ça veut dire tout rayonnement, corps, toute énergie qui est voilée,
est appelé Makif, est appelé qui nous entoure. Bien qu'en vérité, il nous entoure pas. Bien qu'en vérité, il va nous intégrer. Pourquoi je dis qu'il m'intègre? Parce que je ne le sens pas. Et là, je vais donner l'exemple de la lumière et l'obscurité que je donnais tout à l'heure. Qui alma deit kassia, ou le malab et madriga mama deit galia. Dans le Zohar, on nous parle de deux catégories de monde. On nous parle le monde caché, d'accord? Et le monde dévoilé. D'après vous, c'est lequel le plus grand? Le monde caché ou le monde dévoilé?
Dévoilé.
D'accord?
Ah.
Le monde caché ou le monde dévoilé?
Ah oui, caché. Pour lui, le monde dévoilé, c'est le monde caché.
Ah, t'es comme le Nourazaken. Le monde caché ou le monde dévoilé? D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on aurait envie de dire? Bien sûr, logiquement, on aurait envie de dire, le monde dévoilé, c'est lui qui est le plus grand. Le monde caché, il n'y a rien, c'est l'obscurité. Eh ben non. Le Zohar, il te dit, si c'est de l'obscurité, c'est pas parce qu'il n'y a pas de lumière. C'est parce que moi, je vois pas de la lumière.
Alors,
ça veut dire que quand le Zohar, il te dit, il y a un monde qui est caché, un monde qui est dévoilé. C'est pas qu'il y a un monde qui est caché, il n'est pas caché. Pour moi, il est caché. Moi, je l'appelle caché. Moi, je le vois pas. Ça veut dire que l'Admor HaZaken, c'est un grand chidouche qui dit ici. Et ça, il expliquera dans les Guérettes à Kodesh, d'où il tire ça. Il dit que chaque fois dans le Zohar qu'on a une notion, quand on dit que quelque chose est caché, ou que quelque chose nous entoure, etc., ça veut pas dire que la chose est réellement cachée. La chose n'est pas cachée. C'est des notions qu'on a données par rapport à la perception de l'homme. Et comme pour l'homme, c'est caché, donc on va appeler ça caché. Un exemple très simple. On dit que, à la traversée de la mer Rouge, c'est quoi le grand miracle de traverser de la mer Rouge, à part le côté technique, qu'est-ce qui s'est passé? On dit que c'est quoi la différence entre la terre sèche, enfin entre donc entre la terre ferme et la mer. On dit c'est que dans la terre ferme, tout ce qui se passe est visible à l'œil nu. Ça veut dire que tout ce qui se passe, je vois des animaux, je vois l'air, etc., c'est visible à l'œil nu. Alors que celui qui est à la surface, qui ne va pas rentrer dans l'eau, bien qu'il sait qu'en vérité, en dessous de l'eau, il y a toutes sortes de choses qui se passent, mais dans les faits, lui, qu'est-ce qu'il va voir? Alors, de l'eau. Quand on va rentrer, on sait qu'il y a des choses qui se passent. Mais quand il voit de l'eau, c'est tout ce qu'il voit. C'est la différence entre Alma Deit Kassia, Alma Deit Galia, le monde caché et le monde dévoilé. C'est quoi le grand miracle? Qu'est-ce qui s'est passé à la traversée de la mer Rouge?
Même quand il voit dans l'eau, il voit mal.
C'est que, à la traversée de la mer Rouge, on te dit que la mer, elle s'est fendue, ça veut dire qu'on a vu avec nos yeux physiques, on a vu ce qui se passe en dessous de l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, nos yeux physiques ne peuvent voir que le mévalé, que ce qui est galou, que ce qui est dévoilé. Mais ce qui est obscur pour nous, enfin ce qu'on appelle obscur parce qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas le voir, on ne le voit pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, mais pour nous c'est de l'obscur. C'est quoi le grand miracle de la traversée de la mer Rouge? C'est qu'à ce moment-là, ce qui normalement est obscur, le non-dit, est devenu du dit.
Mais comment est-ce qu'on peut...
Et c'est pour ça que la Gemara nous dit que à la traversée de la mer Rouge, on dit qu'une servante a vu même ce que Yeheskel ne va pas voir plus tard. Elle a vu quoi? La mer, elle s'est fendue. Alors, big deal. On a déjà vu plein de fois que la mer, elle s'est fendue. Que les fleuves sont fendus. Qu'est-ce qu'il y a eu de tellement spécial? C'est ça ce qu'il y a eu de spécial. Ce qu'il y a eu de spécial, qui est encore plus fort que Matan Torah. C'est qu'ils ont vu comment Akadosh Baruch Hu animait la matière. Chose qu'ils n'ont pas pu voir à Matan Torah, parce qu'au don de la Torah, on dit que dès qu'ils ont commencé à voir, leur neshama, elle est partie. On dit que la traversée de la mer Rouge, c'est encore plus fort que Matan Torah. Parce qu'ils ont été capables de rester vivants. Ça, c'est un méhen de Machiar. C'est un petit peu comme ce qu'il raconte dans Machiar. De rester vivant et de voir, ça veut dire, de voir le monde caché en mode dévoilé. De voir le non-dit en mode dit. De voir le sauvève en mode démêlé. Ça, c'est le grand miracle. Alma Deit Kassia, Alma Deit Galia.
Pourquoi on peut dire que le monde qui est caché, il est plus grand que le monde dévoilé?
C'est ça ce qu'il dit Admor HaZaken.
C'est parce qu'on voit pas, que ça veut dire qu'il est plus grand. Peut-être qu'il est grand.
L'Admor HaZaken te dit que pourquoi je l'appelle le monde caché?
Parce qu'on le voit pas.
Pourquoi j'appelle l'obscurité? Pourquoi dans la physique, après l'ultraviolet, je dis c'est de l'obscurité? C'est pas de l'obscurité, c'est très bien. C'est très bien que c'est mieux que l'ultraviolet.
Mais ça veut pas dire qu'il y a plus après.
C'est très bien que le rayonnement est encore plus fort, puisque dans le rayonnement, plus on avance, plus ça monte. D'accord? Alors, à un certain moment, je dis, après je vois plus. Je ressens seulement, mais c'est de l'obscurité.
C'est évident.
Il te dit, l'Admor HaZaken, il te dit, si j'appelle ça l'obscurité, ça veut pas dire que c'est de l'obscurité. Parce que normalement, le rayonnement, il doit être plus fort que l'ultraviolet. Ah, pourquoi j'appelle ça l'obscurité? Parce que je ne le vois pas. Et le jour où je verrai l'étape suivante, je dirai, t'as vu, on a découvert la nouvelle étape, l'ultra-ultraviolet. L'étape suivante, c'est l'obscurité.
Après l'ultraviolet, c'est l'ultra-orthodoxe.
Hein? Ultraviolet, bon, avec un T à la fin.
On appelle la lumière noire.
Oui. Dans le Zohar, on appelle ça Ochma Nehora.
Trop noir.
D'accord? Ochma Nehora, Ochma Nehora dans le Zohar, ça veut dire, Nehora c'est la lumière, Ochma c'est noir. La lumière obscure.
C'est le trou noir.
C'est quoi la lumière noire? C'est ça la lumière noire. La lumière noire, c'est-à-dire qu'il y a une lumière qui est tellement forte qu'on ne voit pas. On ne peut pas la voir. C'est comme on dit, il y a un exemple qu'on peut voir, on peut essayer de voir. C'est que quand par exemple, on prend une lumière qui est très forte, voilà, quand une personne regarde le soleil, qu'est-ce qui se passe? Il va voir noir. Bien que c'est pas logique. Pourquoi tu vois noir? Dis-moi que tu vois pas, mais pourquoi tu vois noir? Parce que la lumière est tellement forte que puisque mes yeux ne peuvent plus la voir, donc c'est du noir. Donc moi, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, j'ai vu du noir, mais c'est très bien que t'as pas vu du noir, t'as vu le soleil. Et si le soleil est déjà capable de m'éclairer sans que je le vois, à plus forte raison que si je le vois, c'est une grande lumière. Je le vois pas. Comme je le vois pas, je dis c'est du noir. C'est la même chose. Quand dans le Zohar on te dit Alma Deit Kassia, Alma Deit Galia, un monde caché, un monde dévoilé, et qu'on te dit que le monde caché est plus fort que le monde dévoilé, si je l'appelle caché, ça ne veut pas dire qu'il est caché. C'est moi qui l'appelle caché parce que pour moi il est caché.
Mais ça, je suis d'accord, mais
c'est pour ça que c'est une notion, c'est pour ça, juste deux secondes, je termine, c'est pour ça que la notion de Alma Deit Kassia, Alma Deit Galia, la notion de caché et dévoilé, c'est une notion qui est relative. Et c'est pour ça que peut-être pour un tzadik, ce qui est caché pour moi, bah pour un tzadik il sera dévoilé, d'accord? C'est-à-dire, ce qui me paraît caché, pour le tzadik, c'est lui dévoilé. Voilà. D'accord? Mais pour le tzadik, il aura d'autres notions qui seront sans Alma Deit Kassia. Mais obligatoirement, il y aura quelque chose de caché, c'est sûr, ça. Toujours.
Oui, mais c'est comme un médecin avec quelqu'un qui ne connaît rien, c'est pareil. Hein. Donc, il est malade, il croit que c'est parce que... Alors qu'en vérité, il ne sait pas que... Les microbes, des trucs, il y a des machins...
Et... Dévoilé,
c'est un problème de niveau, quoi.
Tu veux dire que quand une personne vient voir le médecin, il dit j'ai mal au ventre, par exemple. Ouais. Donc le patient, lui, tout ce qu'il sait, c'est qu'il a mal au ventre.
Ouais, voilà.
Après, le médecin va lui dire, je vais t'expliquer pourquoi t'as mal au ventre. Voilà. En vérité, il y a ça et ça qui s'est passé à l'intérieur. Voilà. Ça veut dire que nous, en vérité...
Il voit, parce qu'il connaît, alors
ça veut dire, oui, c'est un bon exemple. Ça veut dire que nous, en vérité, on ne voit que les symptômes.
Voilà.
Moi, je sais que j'ai mal au ventre. Moi, je sais que l'arbre, il a poussé. La Morazakan est un très bon exemple, là. Moi, je vois que l'arbre a poussé. Donc, je vois le symptôme. Je dis, ah, t'as vu ça, ses yeux. T'as dit, non. Si t'as mal au ventre. C'est parce qu'il y a autre chose qui s'est passé derrière.
Voilà.
Non. Allez, moi. Ou les cas révèlent la sèche à l'yoter. Ou bederech macha. Bon. Là, la Morazakan, il dit, maintenant, je vais te donner encore un autre exemple. Ça, tout ça, c'est un premier exemple. Un premier exemple pour démontrer que c'est pas parce que je ne comprends pas, c'est pas parce que je ne sens pas que ça m'intègre que ça ne m'intègre pas. Donc le sauveur m'intègre. Pourquoi je l'appelle sauveur? Pourquoi je dis qu'il m'entoure? Parce que je ne vois pas comment il m'intègre. Donc quel exemple on a amené? Premier exemple qu'on a amené, c'est l'exemple de l'énergie qui fait que la terre va pousser. Du minéral et du végétal. Et même si moi je crois, je dis, regarde, moi quand je vois de l'eau, ben je vois de l'eau.
Ou n'importe quoi. Hein.
Ou de n'importe quoi, oui. Non, mais il a amené un exemple. Il a amené cet exemple-là parce que dans cet exemple-là, on voit clairement, hein, l'œil humain voit clairement comment ça pousse.
Pourquoi un enfant qui grandit, c'est pas la même
oui,
chose.
Oui, c'est vrai.
Je sais pas, c'est pas... Bon, quelque chose qui évolue, c'est le... ça veut dire ça, quoi. Qui change, qui se métamorphose, qui évolue,
oui,
voilà.
Oui, bien sûr. Mais il a amené l'exemple.
Pourquoi ça,
il
n'a pas un exemple?
Il a amené, ça veut dire, pourquoi il a pas amené l'exemple d'un homme, par exemple?
Non, pourquoi, en quoi celui-là, il a une plus grande pertinence qu'un homme?
Il a voulu amener un exemple de ce qu'il y a de plus gâchemi possible. Qu'on connaît. Ce qu'il y a de plus gâchemi possible qu'on connaît, c'est la Terre. D'accord. Il a voulu montrer que dans ce cas de plus gâchemi qu'on connaît.
De plus indépendant de l'homme.
Exactement. Ça veut dire de ce que, par exemple, un homme, la vie d'un homme.
Ah, il peut s'occuper, d'accord, de la manger et tout.
C'est une question. C'est une question qui est posée par les commentaires sur le Tania, ça. Pourquoi elle va prendre l'exemple d'un homme, du fait qu'un homme grandit? C'est parce qu'un homme, quelque part, tout le monde sait que la vie, qu'on n'est pas indépendant d'un Kadosh Baruch Hu. Celui qui croit être indépendant, il sait très bien qu'il y a des maladies qui peuvent venir, etc.
Bah,
mais la nature, quelque part, hein, mais la nature, quelque
le
part...
Le croyant, il s'en fout.
Mais ça veut dire que la nature, elle nous donne une impression d'être indépendante.
Ah oui, c'est ça.
C'est la nature.
Ouais.
Et qu'est-ce qu'on s'imagine quand on s'imagine
comme
la nature?
C'est l'autre du rabbit.
C'est ce qu'il y a de plus matériel possible. Voilà, le fait que les arbres poussent, le fait que... C'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui dit, ben ça pousse tout seul, Dieu n'a pas besoin de s'occuper de ça. À la limite, Dieu va décider si je vis ou je vis pas. Mais si la nature va pousser, ça pousse tout seul. Mais on te dit non. Ce que tu as de plus matériel que tu imagines, il y a toujours Akadosh Baruch qui est en train de le faire vivre. Comme le Baal Shem Tov avait l'habitude de ramener le Midrash, qu'on étudiera avec Ezrat Hashem dans quelques années dans les Guéret HaKodesh, qui dit, d'accord, qu'il n'y a pas N et Sève, il n'y a pas une seule plante, d'accord, que Akadosh Baruch ne lui dit pas grandit. Il n'y a rien. C'est pas seulement. On aurait pu s'imaginer, parce qu'il y a des gens qui pensaient comme ça.
De manière générale.
Il y a des penseurs juifs qui pensaient que Akadosh Baruch Hu s'occupe que de l'humain. Mais la nature tombe tout seul. Ouais. Elle tombe tout seul. Il n'y a pas de sauveur dans la nature. Il n'y a que tu mets mal. Ça tombe tout seul. T'as dit non. Le plus matériel que tu peux t'imaginer, donc qui est a priori le minéral, le plus physique qu'on peut s'imaginer, c'est le minéral. Le plus physique que tu peux t'imaginer, c'est un camouflage. Tu mets mal. Mais en vérité, ce qu'il peut pousser, c'est le sauveur.
Non,
le minéral, ce qu'il y a de plus...
C'est du minéral et du végétal, les deux. Dans une plante, t'as les deux. Bah oui, il fallait faire les minéraux.
Qui est... Non, c'est... Dire comme... oui, je vais expliquer.
La pierre,
qui me paraît le plus indépendant dans le monde.
La pierre, est-ce qu'elle pousse?
Le minéral, c'est le dernier.
C'est le dernier, c'est évident. Parce que le minéral, tu dis, c'est une pierre, elle bouge pas, j'ai pas besoin de Dieu pour
c'est
ça.
C'est pas une graine, c'est pas la plante. La plante est déjà
voilà.
une vie.
La plante est déjà une vie. Faudrait que je mette l'exemple de la terre. Tu vois, dans la terre, dans la terre, on a le minéral et le végétal. C'est deux éléments qui sont les deux éléments de base de la nature. Et qu'à la limite, on va dire, même si tu vas me dire que l'homme, il n'est pas indépendant, mais ça, c'est indépendant. Le végétal, c'est indépendant. Le minéral, c'est indépendant. Une pierre, elle restera là. Il faut une énergie de Dieu qui la fasse vivre. Elle bouge pas, qu'est-ce que tu veux? Je dis non. Si tu la vois rester ici.
Dieu, c'est la pluie qui tombe.
C'est voilà. Ça veut dire que c'est que non.
L'énergie de Dieu, là où est-ce que c'est la pluie qui tombe. Sans pluie, il n'y aura rien.
Exactement. Alors, ça, c'est le même aller. Ça sent en mode, pourquoi quand il y a de la pluie qui tombe, ça va pousser? Pourquoi? Aujourd'hui, c'est comme j'ai dit, moi je peux dire j'ai mal au ventre. Ça, je sais dire que j'ai mal au ventre. On va, explique-moi pourquoi t'as mal au ventre. Ça, je sais pas. Ça veut dire qu'on peut analyser les symptômes. On peut aller très très loin en analysant les symptômes. Mais tu expliques toujours pas pourquoi quand de l'eau est tombée, ça va pousser. Quel rapport entre l'eau que ça a poussé? On dit, ah, c'est la nature. Toujours on arrivera à un point, on va faire que reporter le problème. Comment on appelle ça? Il y a une définition quand on reporte le problème. C'est du...
Non,
il y a une définition pour ça.
Repousser les limites, repousser.
C'est du... on vote en touche. C'est ça?
On
répond pas à la question.
C'est du récursif.
Tu réponds pas à la question, on fait que reporter le problème.
Non,
récursif. Je dis pourquoi ça pousse? Parce que la pluie est tombée. Et pourquoi quand la pluie est tombée, ça va faire pousser? Alors après, on va te trouver des phénomènes physiques, etc. Mais à la fin, on arrivera toujours à... Parce que le même aller, c'est du camouflage. La vraie raison pour laquelle ça pousse, c'est ce bœuf. Alors, un deuxième exemple.
Et voilà.
Quelle heure il est?
Et le Wi-Fi,
c'est déjà l'heure. Bon, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Mais dans la chaîne, la semaine prochaine, on aura un deuxième exemple alors. Un deuxième exemple pour encore mieux comprendre ce qu'on explique aujourd'hui. Ou les Karev et la Sechel Yoter. Ah, ça sera intéressant. La semaine prochaine, on va parler du Rambam, du Maharal de Prague, du Ramak. On va faire un petit... On aura un beau tour d'horizon des penseurs juifs.
On s'arrête au Malmé
Bédgalia.
On va s'arrêter à...
Malmé Bédgalia.
Ou les Karev, oui. Voilà. Ou les Karev.
Les
Karev,
la semaine
prochaine.
Le Rambam ne croit pas aussi.
Non, on verra la semaine prochaine. Vous allez voir. On va parler du Rambam, on va parler du Maharal de Prague, on va parler du Ramak, on va parler du Harizal.
Le Harizal est d'accord avec
on va parler de beaucoup.
Oui ou non?
Tu vas voir. Il y a plusieurs points.
Non.
Bon, donc là on a posé quand même. Donc là, pour conclure le cours d'aujourd'hui, on a quand même posé un. Enfin, on est en train de poser un deuxième repère. C'est quoi le deuxième repère qu'on a posé pour expliquer la distance qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et nous? C'est qu'on a expliqué que ce que tu crois être ton énergie n'est pas ta vraie énergie. C'est du camouflage. Ça veut dire, il y a deux semaines, on a expliqué le fait que l'infini et le fini ne sont pas comparables. Maintenant, on a posé encore un autre repère. On te dit, ce que tu crois être ton énergie, ce que tu crois être la raison qui fait que les choses avancent, c'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est sauver, c'est le non-dit. Le dit, c'est du camouflage.
D'accord, donc le livre arbitre,
en sachant bien qu'on n'a rien pour mesurer ce non-dit.
Rien du tout. Zéro.
Juste confiance.
Peut-être. On peut peut-être
non,
ceux qui ont une grande neshama,
sauf, on peut comprendre.
Ceux qui ont une grande neshama à la limite, ils peuvent des fois sentir l'impact du non-dit.
Et on sait même pas en quoi est-ce qu'on le sent.
On sait même pas, non. Walou, rien du tout.
Je vais vous dire.
De Mashiach.
Je vais pas laisser parler, hein.
Pardon?
Je vais vous dire que.
Vous voulez nous raconter, Yacob.
Quoi,
nous,
quoi
pour nous, Mashiach, c'est pas là.
Et on va pas comprendre. Quoi,
C'est écrit que pour la neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ouais. Écoutez bien, c'est écrit, non mais tu vois, je pense que je vais arriver à ce que tu veux dire. C'est écrit que pour Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a jamais été en exil. Et que pour lui, l'exil n'a jamais existé. On pose la question, ça veut dire quoi l'exil n'a jamais existé? Ça veut dire que le Bataille Nech n'a pas été détruit? On dit non. Ça veut dire que le phénomène de l'exil qui fait que ben on voit pas certaines choses, ben pour les grandes Nechamot, ce phénomène n'existe pas. C'est-à-dire que eux, ils continuent de voir. Ils voient, quand ils voient la matière, ils voient le spirituel qui l'anime. Donc les grandes Nechamot, à la limite, on va dire qu'ils ont une meilleure perception du non-dit. Mais pour le commun des mortels, on voit rien du tout, je m'en dis. Et celui qui me dit qu'il ressent la Kedusha de Sefer Torah, j'aimerais qu'il m'explique qu'est-ce qu'il ressent. Bah pour moi, on ne peut pas expliquer. Je ne sais même pas si c'est psychologique, si... Bon, c'est... certainement c'est vrai.
Bon,
voilà. Qu'est-ce qu'il va nous expliquer, Yacoub?
Bon, je vous dis, bon, parce que mon avis, hein, qui vaut plus haut, hein.
Il vaut.
Un individu, il est divisé en deux. Il a sa partie qu'on connaît, et il a sa neshama.
Oui.
C'est comme si c'était une deuxième personne.
D'où tu sais que la neshama?
Voilà, je te dis, voilà.
C'est bah, tu sais.
Tu le sens, tu le sens. C'est marqué dans la Torah, déjà.
Tu le sens?
Oui.
Où est l'état Neshama?
Tu le sens.
C'est quoi l'état Neshama?
Ouais. On parle d'un truc que je ne peux pas t'expliquer avec les mots, puisqu'on est dans, on est dans le non-dit.
D'accord.
En plus. Donc, la question, c'est est-ce que.
La vieille potée
en est-ce, ouais. Est-ce que tu peux recentrer
la méthode? C'est pour ça que je te dis que le non-dit. Tu parles à un scientifique, il va se moquer de toi, il va dire il n'y a pas d'âme, il n'existe pas.
Il n'y a pas d'âme. Tu ton corps avant, je
sais pas. Bon, je vous continue.
Non, mais continuez, parce que là, on est en train de casser l'explication.
Bon, donc c'est quoi l'âme? Non, pas du tout, on la casse pas, on la confirme.
Je dis pas l'âme, je dis qu'il y a deux personnes en une.
Très bien.
D'accord.
Le dit, le non-dit.
J'appelle l'âme parce que ça semble correspondre.
C'est quoi l'âme?
Une autre personne que tu ne vois pas, qui est en toi.
Ah, que tu ne vois pas.
Que tu ne vois pas.
Donc je l'appelle cachée, alors qu'en vérité, elle est la plus dévoilée. Donc alors, c'est le non-dit.
Et quand tu arrives à la dévoiler, c'est-à-dire, quand t'as une nourriture, tu te donnes une nourriture qu'elle veut, elle, à ce moment-là, elle peut se dévoiler.
Tu vas la ressentir.
Tu vas le ressentir.
Elle peut pas se dévoiler. Par définition, ça peut, le soleil ne peut pas se dévoiler.
Le ressentir, ça s'appelle dévoiler.
Et attention, et la seule partie qui se dévoilera de ton âme, tu as raison, la seule partie qui se dévoilera, ça sera éventuellement la partie mémalée. Mais la partie sauvage ne se dévoilera jamais. Impossible. Tant que Machiach ne vient pas, à part si t'es un sadique. C'est ça le chidouche de Machiach. Le chidouche de Machiach, c'est Veraou Kolbassar, que là on sera capable de percevoir la divinité dans la matière.
Peut-être qu'on sera capable de percevoir de façon continue. Ça n'exclut pas le fait qu'on peut peut-être percevoir de façon discontinue.
Oui.
Machiach, c'est en permanence, tout le monde sera Veraou Kolbassar, c'est du continu. Donc, il est possible qu'avant Machiach, on peut percevoir de façon ponctuelle.
Percevoir quoi?
Non, c'est-à-dire le côté mémalé de la Neshama.
Alors je continue. Oui. Le côté mémalé de la Neshama, ça oui, d'accord.
C'est possible de façon ponctuelle.
Je continue, de façon ponctuelle, sur certaines mitzvot suivant les individus, pas sur toutes.
Alors tiens, attends, oui, d'accord, moi je vais rajouter un point encore, oui.
Bon, c'est marqué dans les Tehillim que la Torah s'est comparée à l'eau,
oui.
Et on parle de la biche qui va s'assoiffer, qui va boire la soupe.
Il y a le tarog à la fikébaïne.
Voilà, bon. Et bien c'est la même chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ressens que ta Neshama, elle a bu là où elle devait lorsque tu as fait la mitzvah.
Alors moi je vais t'expliquer,
et là tu ressens...
Ce sentiment-là,
une source.
J'ai compris. Ce sentiment-là, voilà. Jacob.
Pas tout le temps, pas.
Très bien, très bien.
Très bien. Saurais, hein.
Ce sentiment, c'est un camouflage aussi par rapport à ce qui se passe réellement.
Oui, bien sûr. Oui, ça d'accord.
Ça veut dire comme ça. Ouais. Imaginons par exemple, voilà, par exemple, quand on a fait l'inauguration du Sefer Torah, j'ai senti une grande doucha.
Ouais.
Certainement, j'ai senti quelque chose. J'ai senti que j'étais ailleurs.
Ouais.
C'était ailleurs. C'était quelque chose. C'était pas du faux. J'ai senti qu'on était ailleurs. Très bien. Pas de problème. Ça c'est du mémalé,
oui,
ça c'est du camouflage, ça veut dire qu'en vérité la kdoucha qu'il y avait à ce moment-là, c'est incomparable, c'est rien à voir par rapport à ce que j'ai ressenti. Le sauveur qu'il y avait à ce moment-là,
fort,
je l'ai pas touché,
mais ça a mémalé sauveur.
J'ai eu un mémalé, c'est-à-dire j'ai eu un camouflage,
ça a eu un mémalé dans le sauveur.
Le sauveur par définition,
d'accord.
On peut pas toucher,
ouais. Sauf un chimon de Bayoura.
Sauf ceux pour qui, on n'a jamais été en exil.
Il a mis feu
au champ. Voilà, continue le reste pour le prochain, vous vous rattachez. Bon.
D'accord.